Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur Europe 1. J'ai une heure chaque jour pour vous montrer que oui, la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. VivaTech démarre aujourd'hui, vous le savez, et les pépites françaises y sont en force. Gros plan sur la technologie, elle est partout. Vous allez voir et vous allez être surpris dans le sauvetage, la mobilité et aussi la médecine. Il est français, il est devenu l'un des meilleurs créateurs de réalité virtuelle. Le studio Backlight est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vous voulez au maximum sécuriser votre porte d'entrée, la première serrure connectée lumineuse arrive, elle s'appelle Havre, H-A-V-R, et c'est la solution, c'est ça la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, bienvenue aujourd'hui dans le monde de la technologie parce que c'est VivaTech qui démarre. Alors nous avons sélectionné pour vous des innovations françaises qui vont révolutionner vos vies, Anissa. Évidemment, on attend les commentaires des auditeurs.
Ah bah les commentaires et les questions, parce que là, elles vont pleuvoir les questions sur toutes ces nouvelles technologies, ces technologies de demain. Elles vous intriguent. Venez poser vos questions au 39-21, c'est le standard, 50 centimes la minute. Et puis on vous lit également sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et pour accueillir nos invités, à mes côtés, il y a comme chaque jour, Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est le fondateur de Phoenix, c'est Jean Moreau qui est avec nous. Bonjour,
bonjour
Jean.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Vous allez donc découvrir avec nous des innovations bluffantes. Je n'ai que ce mot à la bouche, mais c'est vrai. Bluffante d'abord, peut-être dans le domaine du médical, parce que ce domaine-là a très vite compris qu'il pouvait justement beaucoup attendre du numérique. Mais aujourd'hui, ce qui se profile et ce qui est déjà en cours est impressionnant, parce qu'on va pouvoir, avant l'opération, avoir sous les yeux le clone médical en 3D du patient. Professeur Luc Solaire, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vraiment. Vous venez de Strasbourg, vous êtes directeur scientifique de l'IRCA, de l'Institut de recherche sur le cancer de l'appareil digestif. Et vous êtes aussi le président de Visible Patient. Alors, on dit patient ou patient ?
On le dit en anglais, mais on peut le dire aussi en français si on veut.
Alors, si on traduit, c'est le patient transparent, hein, en quelque sorte.
Le patient visible. Ouais. Oui.
Vous avez imaginé, je le disais, un clone de patient qui aurait les mêmes caractéristiques que la personne à opérer. Il faut dire que l'IRCAD a déjà un peu un coup d'avance, hein, puisque vous êtes à l'origine de l'opération à distance entre New York et une patiente à Strasbourg, c'est
Tout
ça ?
Tout à fait, en 2001.
Alors, comment est-ce que vous faites pour obtenir notre copie numérique, celle de notre corps ? Qu'est-ce qu'on fait ? On passe d'abord tout un tas d'examens ?
Alors, en fait, assez simplement, au quotidien, avant de faire un acte chirurgical, on va faire un scanner ou une IRM au patient. Et cette image, c'est un peu comme une photo satellite. Donc, on n'a pas le nom des rues dessus, on n'a que la photo satellite. Et de cette image, pourtant, il y a bien les rues dedans. Donc, l'idée, c'est de faire comme pour une photo satellite. On va faire une cartographie, on va extraire le contour de chacun des organes, de chacun des vaisseaux. Et ce contour, une fois extrait, on va le reconstruire en trois dimensions en superposant les coupes, comme des pièces de Lego qu'on amasse. Et après, on va faire un modèle 3D de chacun des organes, de chacune des pathologies.
Donc on fait des scanners, des IRM, c'est
scanner
ça pour
les deux ? Scanners ou IRM de routine
qui
sont envoyés à Visible Patient par un système de transfert sécurisé via un serveur hébergé chez DocaPost, notre partenaire d'hébergement de données de santé. Et cette image, une fois transférée par des systèmes qui peuvent être soit Internet, soit des systèmes perfectionnés comme celui développé par Imedia, eh bien après, nous, on peut le traiter avec nos algorithmes. Et là, on est comme un laboratoire d'analyse d'images.
Et alors, si vous nous suivez sur europe1.fr, allez-y, regardez, c'est assez bluffant.
C'est
les images sont là. Hein. C'est impressionnant parce qu'on est vraiment à l'intérieur du corps humain. Vous travaillez là-dessus depuis 1999 ?
Alors, en fait, j'ai rejoint l'IRCAD en 99, mais je travaille sur le sujet depuis 95, date à laquelle le professeur Maresco me recrute pour faire une thèse, un doctorat en informatique, dans le cadre d'un projet qui s'appelait Eureka Master, un projet financé par l'IRCAD, donc, au niveau européen. Et c'est comme ça que je rejoins l'IRCAD en 99 à la fin de ma thèse. Oui.
Alors, je disais tout à l'heure, c'est l'avenir, c'est le futur, mais c'est déjà la réalité parce que vous avez déjà fait ça, notamment sur un enfant de 5 ans, racontez-nous.
Alors en fait, il y a plus de 3000 patients déjà qui ont bénéficié de ce système.
Mais ça, c'est
déjà en
place.
On
va comprendre vraiment pourquoi c'est important.
Donc sur cet enfant dont vous parlez, qui est un exemple de l'année dernière qu'on prend assez régulièrement en ce moment, c'est un enfant qui avait une tumeur dans chacun des reins.
Et qui devait être transplanté.
Alors sans la modélisation, à partir de l'image médicale standard, le choix thérapeutique, c'était de retirer la totalité du rein gauche et de conserver la moitié du rein droit. Choix qui a été validé par une deuxième équipe chirurgicale tout aussi experte. Et puis ensuite, le chirurgien qui nous connaissait nous a demandé le modèle 3D pour préparer son acte. Et là, avec la simulation préopératoire, on s'est rendu compte, par simulation, qu'on pouvait conserver un tiers du rein gauche. Et donc, au lieu d'avoir une transplantation, cet enfant a une découpe partielle de chacun de ses reins. Il a été opéré en janvier 2018. En février, il a repris l'école et aujourd'hui, il est en parfaite santé avec ses deux reins.
Donc, non seulement on évite une opération lourde, mais en plus, pardon de le dire, on fait aussi des économies.
Très lourdes économies parce qu'une transplantation sur un enfant de 5 ans, alors l'acte déjà coûte cher, il coûte 80 000 euros. La dialyse qu'on a économisée, c'est 40 000 euros d'économiser. Et puis surtout, c'est chaque année de survie d'un transplanté coûte 20 000 euros parce qu'en fait, il va avoir l'antirejet et il va avoir des pathologies secondaires dues à l'antirejet puisqu'il n'a plus de défense immunitaire. Donc, toutes ces économies qui sont cumulées, c'est bien. Mais le plus important, c'est quand même la vie de cet enfant qui a été très largement améliorée.
Ça vous épate, Jean ?
Bah ouais, moi, ce qui me fascine, c'est le parcours aussi, parce qu'on a quelqu'un qui est un chercheur et qui a développé des compétences entrepreneuriales. Donc, je me demandais où est-ce que vous aviez appris à faire tourner une boîte, à monter un business, à trouver un modèle économique. Et comment vous vous êtes formé sur le tas ?
Alors, je dirais d'abord, j'ai la chance de travailler avec le professeur Jacques Maresco, qui a créé l'IRCAD. Et pour tous ceux qui connaissent l'IRCAD, c'est un modèle exceptionnel. On est connu dans le monde entier avec l'IRCAD, tout simplement parce que tous les chirurgiens du monde entier viennent se former à l'IRCAD. Il y a 5 IRCAD dans le monde. On en ouvre un cette année au Rwanda, l'année prochaine en Chine. Et il y en a déjà un à Taïwan et deux en Amérique du Sud. Donc vous voyez, et lui, c'est un chirurgien, entrepreneur, dans le cadre d'une association. Donc déjà, c'est un modèle en soi.
Parce qu'aujourd'hui, c'est le modèle qui va exister. On va être chirurgien, on va être entrepreneur en même temps.
Aux États-Unis. C'est juste pas forcément le modèle en France. Ceci dit, vous avez remarqué qu'il y a de très grands noms de la chirurgie qui ont fait de l'entrepreneuriat. On a vu avec Carmat. Donc, les chirurgiens français ont cette fibre.
Carmat pour le cœur, on
pour
précise
cœur,
pour ceux qui ne connaissent pas.
Monsieur Carpentier. Et donc, on a cette fibre d'essayer d'améliorer en permanence dans le monde chirurgical parce qu'on est confronté à nos limites. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à passer ce cap de se dire, ben, finalement, dans mon blog, je vais peut-être pouvoir sauver des vies, mais peut-être pas assez, parce que finalement, il me manque des outils, alors que si je crée un outil, je vais pouvoir sauver des millions de vies. Ce que je viens de dire là, c'est ce qui est sur le fronton de Stanford, en Californie, où vous avez l'université de médecine qui explique à ses médecins, qui donne des cours pour créer des entreprises, parce que les produits qu'ils vont développer vont peut-être sauver plus de vies que ce qu'ils pourront faire au quotidien.
Elisabeth, côté santé, puisqu'on plonge dans le monde de Vivatech, vous avez trouvé pas mal d'innovations,
oui,
finalement.
Oui, parce que Vivatech, ce sont aussi des innovations de la santé, comme on vient de découvrir. Je vous ai trouvé un capteur miniature pour assister la prise en charge des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. Ça s'appelle Sensom. Sensom, c'est fondé à partir des recherches menées au laboratoire d'hydrodynamique du CNRS et de l'École Polytechnique. Et ils ont développé des capteurs ultra miniaturisés, donc minuscules, qui permettent d'identifier, évidemment grâce à l'intelligence artificielle, la nature biologique des tissus en temps réel et notamment au moment d'un AVC. Vous avez aussi ChronoLife. ChronoLife, c'est un t-shirt connecté destiné aux malades cardiaques qui surveille le patient là aussi en temps réel et qui génère des alertes en cas d'urgence médicale. Tout ça, c'est à Vivatech.
Professeur, pour l'instant, votre dispositif, il est présent, je crois, dans 24 hôpitaux. L'idée, c'est évidemment de l'étendre. Vous dites... j'ai bon espoir qu'en 2020, on soit dans 80% des établissements.
Alors, pour être plus précis, Visible Patient peut être utilisé dans n'importe quel établissement,
il
y compris
de décider.
Chez vous ou chez le médecin traitant. Parce que c'est un système en ligne qui marche sur un simple smartphone. Par contre, il faut nous envoyer l'image médicale. Donc ça nécessite un transfert qui doit être fait par un système sécurisé. En général, ça se fait d'un service de radiologie vers nous.
Il n'y a
pas besoin forcément d'installation spécifique. Non, ce qui limite, c'est la prise en charge. Et on le sait très bien que le coût en santé, ça coûte quelque chose. Et ce qui a changé, c'est qu'en début d'année, on a eu les assurances Crédit Mutuel, MTRL et la G2R, la mondiale plus récemment, qui ont décidé de couvrir ce. Et ce qui va changer, les 80%, c'est la couverture
alors,
par les assurances mutuelles.
Justement, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Vous avez bon espoir que ce soit fait quand ?
Alors, on est en négociation avancée avec les plus grands groupes de mutuelles et d'assurances. Et on espère qu'en effet, en 2020, on aura plus de 80% des patients qui seront ainsi couverts.
Elisabeth ?
Vous dites qu'il n'y a pas besoin d'une installation, il suffit d'une application. Est-ce que vous ne risquez pas de faire disparaître justement les IRM, les scanners ? Ou vous êtes complémentaire totalement ?
Alors, on ne peut pas travailler sans scanner et IRM. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que nous, on reçoit ça, c'est la photo
et
satellite.
Et vous avez le logiciel qui permet d'aller encore plus loin ?
C'est ça, on fait la carte. Donc, la photo satellite, même si vous avez une carte, ça ne fait pas disparaître les satellites. C'est exactement pareil.
Alors, je précise que vous êtes en pleine levée de fonds, c'est ça
hein, on vient en fait de finir et on l'a annoncé aujourd'hui.
Vous venez de la terminer. Vous allez vous internationaliser, c'est ça l'idée?
C'est ça. Donc, la levée de fonds de 11,3 millions qu'on vient d'annoncer en fait aujourd'hui, avec en entrant le CMCIC Innovation ou Alsace Création, va nous permettre d'aller à l'international, notamment aux États-Unis et en Asie, et aussi va permettre d'accélérer nos transferts de technologies parce qu'on a créé plein de nouvelles choses.
Là, le casque aspects, de réalité notamment, qui va permettre d'opérer directement aussi en 3D.
Vous avez des images aussi, donc, ouais. Qui sont assez spectaculaires. Donc, en effet, une fois qu'on a la carte, bah, le rêve, c'est d'avoir le GPS. La carte, c'est une chose, je peux l'emmener avec moi dans la voiture, mais le GPS me dit exactement où je suis sur la carte, bah, la réalité augmentée, c'est ça.
On reste ensemble et on continue à parler innovation aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h10.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on va garder la carte et le GPS, mais cette fois-ci, non pas pour se déplacer sur la route, mais dans les airs avec un drone taxi volant. A tout de suite.
À l'occasion du salon VivaTech, hein, qui se tient à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi, porte de Versailles à Paris, nous découvrons aujourd'hui toutes les innovations en matière de mobilité. Robots, e-santé, réalité virtuelle, ils sont là. Ce sont vos invités, Raphaël Duchemin. Et vous pouvez leur poser toutes vos questions. Profitez-en sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au 3921, c'est le standard.
Eh oui, bienvenue dans le futur ou plutôt dans le présent, parce que ces innovations, elles sont là, elles sont déjà dans nos vies. Et s'il y a une question majeure qui se pose dans les villes notamment, c'est celle de la mobilité, bien sûr. Bonjour Romuald Ferriol.
Bonjour, enchanté.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président et cofondateur d'Over Taxi. C'est la première fois, je crois, que vous présentez votre projet de drone taxi électrique à deux sièges. Ça fait quatre ans que vous réfléchissez, c'est ça?
Ça fait quatre ans que le concept Over Taxi est né à l'époque où j'étais encore contrôleur aérien.
Oui.
Et effectivement, j'ai imaginé tout ce que pouvait être...
Une solution urbaine de déplacement. Exactement. Vous vouliez, vous qui êtes pilote instructeur, un objet qui vole, forcément.
Oui, c'était vraiment l'idée de pouvoir proposer un nouveau mode de déplacement. Pouvoir montrer qu'effectivement, il y a autre chose que le bus, la voiture, etc. Et que c'est une réelle alternative, en fait.
Et vous dites, dans ma tête, il ne fallait pas un objet qui se transforme, un objet
volant.
L'idée, ce n'était
pas de faire une voiture volante ou de faire un... Non, c'était vraiment quelque chose de suite, de 100% aéronautique, vraiment 100% volant.
Alors, vous venez du Var, vous êtes du côté du Castellet. C'est là-bas que tout a commencé. Comment est-ce que ça se met en place? Comment est-ce que vous commencez à créer ce drone taxi volant?
Alors, l'idée, finalement, c'était de... Pour pas dire pas dans mon côté plutôt contrôleur aérien, la problématique, c'était plutôt comment on va faire pour pouvoir justement proposer ça dans une ville, un centre urbain. Comment on va pouvoir aujourd'hui survoler, on connaît pas avec des petits drones qui pèsent 800 grammes, comment on va pouvoir faire quelque chose de nouveau avec un nouveau type d'appareil 100% électrique? Donc c'est plutôt parti de ce constat-là. Et derrière, l'idée, c'était de trouver comment on allait pouvoir avoir un appareil qui pourrait permettre de faire ça.
Alors un drone, on voit tous à peu près ce que c'est, mais le vôtre, si vous nous suivez sur europe1.fr, il est particulier, parce que de l'extérieur, il ressemble.
Il ressemble à un hélicoptère. Effectivement, ça va ressembler à un gros hélicoptère ou un gros drone, finalement. Mais c'est pas autonome, par exemple. Un drone, ça vole tout seul, ou quelqu'un qui a une télécommande plus loin. Là, il y a vraiment un pilote dedans.
Alors, il y a un pilote, il y a deux sièges, celui du pilote et celui du passager. Et puis, il y a, comme dans un hélicoptère, un manche, mais là, c'est un joystick, hein, comme dans un jeu vidéo.
Exactement, c'est vraiment... justement, je suis pilote et instructeur sur d'autres types d'appareils, et là, vraiment, ça n'a rien à voir. Il faut revoir, en fait, le mode de pilotage, mais c'est vraiment très, très simple.
Comment ça marche?
Bah, du coup, c'est vraiment un joystick avec le pouce, on va pousser vers le haut pour augmenter la puissance, on va décoller verticalement comme un hélicoptère.
Donc on n'aura pas besoin de permis de drone pour
Alors du coup, en termes de réglementation, tout est en train de se dessiner. Nous, on est monté assez haut au niveau des GAC nationales. Là, ça se joue maintenant au niveau européen avec l'EASA, l'Agence européenne de sécurité aérienne. Et effectivement, tout est en train de se définir. On travaille avec eux, on fait des workshops pour pouvoir justement établir ce que va être la future réglementation et donc le brevet de pilote.
Ce qui va plaire à Jean, c'est que tout est électrique. Du coup, c'est zéro pollution dans la ville.
Ouais, là pour le coup, on est 100% électrique. Donc il y a rien de mécanique, il n'y a pas de biellette en mouvement, il n'y a pas de moteur thermique, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas d'hydraulique. 100% électrique.
Jean Moreau, notre coach.
C'est une chose. En plus, l'édition aujourd'hui de VivaTech est passée sous le signe de la technologie for good. Donc, vous êtes à fond là-dedans, la technologie au service du respect de la planète. Vous en êtes où dans le produit? Il y a déjà eu un vol d'essai, un vol d'inauguration?
Il y a un prototype qui vole depuis octobre de l'année dernière. Okay. Nous, l'idée, c'était de pouvoir proposer finalement un concept dans sa globalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir proposer ce service-là dans une ville, on doit pouvoir aussi pouvoir prévoir des endroits pour pouvoir se poser. Donc on a poussé un peu le côté green tech, dans le sens où on va recycler nos déconteneurs qui sont en fin de vie pour en faire des stations Over Taxi. Et qu'on va pouvoir faire ça pour pouvoir les plugger. C'est complètement plug and play.
Donc l'aspect recyclage.
Exactement. On essaie d'être vertueux au maximum. Il y a l'appareil qui est électrique, mais il y a tout le reste qui, du coup, on essaie de faire quelque chose.
Il est fabriqué où?
Alors pour l'instant, c'est fabriqué dans le Var. C'est tout, ouais, tout est 100%, tout est français. Tout en 100% français, 100% région sud pour le coup.
Bravo.
Donc, non, on, est, ouais, toutes les, on joue la carte
toutes
nationale à fond.
Les cases sont cochées, effectivement. Et alors, vos premiers vols, c'est ce mois-ci?
Alors, les premiers vols, là, on fait les premiers vols pilotés là, en ce moment. Et surtout, ce qu'on mise, c'est pour ça qu'on est parti, nous, sur du vol piloté et pas autonome, c'est pour pouvoir te permettre d'avoir une première ligne, de faire des premières mises en exploitation assez rapidement. Donc nous, on vise 2022, donc c'est conforme à nos discussions avec l'EASA. La première ligne, finalement, au monde officiel, on a de bonnes chances de pouvoir la faire, nous, en France.
2022,
donc,
2022. Ou un peu avant?
Non, on est fin semestre 2021 au mieux.
Sur
premier,
quel tronçon?
Premier semestre 2022.
Je crois que vous visez... Roissy,
voilà,
Orly.
Alors, effectivement, on a plusieurs applications.
Direction la gare, voilà, Paris,
exactement,
Paris-Gare finalement. De
Lyon. Voilà, on a quatre types d'applications. En fait, il y en a vraiment pléthore derrière. Mais on, avant de montrer la forêt, on va expliquer ce qu'on peut faire avec l'arbre. Et donc, du coup, on a vraiment la ligne point à point, le réseau global, couverture d'agglomération, la partie événementielle, typiquement Vivatech, faire des liaisons entre Orly, Charles de Gaulle et Vivatech pendant un événement. Ou sur des zones touristiques, des sites éco-responsables.
Mais vous avez le lieu pour atterrir et tout ça, enfin,
on
y a,
le développe
y a l'endroit.
En interne.
Les fameux containers.
On fabrique ça, nos stations Vataxi, à base de containers finalement, qu'on recycle. Et on peut également, vu le poids de l'appareil, s'intégrer à n'importe quel toit plat. C'est-à-dire que sur Paris, il y a
le
des
poids,
bâtiments
il est de combien,
en toit plat,
justement
il y en a 600 kg en masse max pour l'instant, l'appareil biplace.
Elisabeth,
oui.
Je crois que vous avez...
Moi,
vous étiez partie en drone taxi. D'autres innovations, peut-être moins connues, toujours dans le transport,
oui,
d'ailleurs.
Dans le transport, vous avez une voiture volante dont le premier prototype va être dévoilé à Vivatech. C'est une sorte d'overboard qui intéresse d'ailleurs beaucoup l'armée française. C'est le Flyboard Air de Zapata Racing. Vous connaissez...
Voilà.
Ou encore la start-up française Ascendance Flight Technology qui va, elle, exposer son concept de taxi des airs, moteur hybride qui pourra transporter 4 personnes jusqu'à 150 km de distance. Son président espère l'ouvrir, le mettre en service d'ici 2024.
Vous cherchez des fonds en ce moment?
Tout à fait.
Vivatech, c'est le bon endroit.
Et exactement. On
ici aussi, c'est le bon endroit.
De sérieuses touches, c'est ça. Non, c'est effectivement, là, on a besoin encore d'une coquette somme, entre guillemets. Du coup, on est vraiment sur de la grosse innovation de rupture. Donc, on cherche des fonds.
Vous avez croisé le président ce matin?
Non, mais non. A priori, peut-être cet après-midi, il va passer.
Peut-être
donc,
cet après-midi.
Donc,
bon, un petit tour en taxi.
Exactement.
Vous allez
exactement.
Dire quoi?
Déjà, j'ai parlé avec lui de la réglementation.
Oui.
Parce qu'en l'occurrence, en France, on aime bien l'administratif. Et du coup, ce serait bien que ce soit un peu plus souple. Donc voilà, c'est dommage d'aller travailler directement avec l'EASA alors qu'on aura peut-être une fenêtre de tir 100% française.
Eh oui, commencer
donc,
ici.
Donc voilà, si on peut essayer d'instiller le fait qu'il faut être un peu plus souple sur les nouvelles technologies. Donc on va essayer de voir ça avec lui. S'il est réceptif.
On reste ensemble, on continue à parler innovation.
Merci.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on va rester dans les airs justement avec un drone sauveteur. Il est français, mais son nom est anglais. Il s'appelle Helper. A tout de suite.
À l'occasion du salon Vivatech qui se tient à Paris jusqu'à samedi et qui débute aujourd'hui, nous découvrons le futur, toutes les nouvelles technologies que nous utiliserons demain en matière de mobilité, de robots, d'e-santé, de réalité virtuelle. Ils sont vos invités et vous pouvez leur poser toutes vos questions. N'hésitez pas, hashtag Europe 1 sur Twitter, 3921 pour le standard.
Et puis on voyage aujourd'hui, nous partons dans les Landes cette fois à Inx, car c'est là qu'est né le projet d'Helper, le drone Helper. Bonjour Fabien Farge.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes l'un des fondateurs de ce drone qui a pour but d'effectuer du sauvetage en mer. Alors vous êtes urgentiste et vous faites du secours côtier, je crois, du côté de Biscarrosse, c'est ça?
Voilà, oui, entre autres, je travaille tous les étés à Biscarrosse, où je dois prendre en charge justement les gens qui se noient. En fait, c'est un petit peu de là qu'est née l'histoire. Je crois que c'est Lavoisier qui avait eu l'habitude de dire que une invention, c'est un incident dans un cerveau préparé.
Oui.
Et je trouve que c'est assez joliment dit. Et je pense que ça correspond un petit peu à ce qui s'est passé dans ma petite tête. C'est que, en fait, l'histoire, j'ai eu un...
On vous a offert un drone.
Pardon ?
On vous a offert un drone.
Complètement.
Pour vous
amuser.
Dans
la même journée, on m'a offert un drone et le matin, j'ai eu un incident grave, une noyade grave. Et l'association d'idées s'est faite. Et je me suis dit, c'était tellement plus évident de survoler les vagues plutôt que les traverser pour aller porter secours, que le drone pouvait être un merveilleux vecteur pour pouvoir aller déposer une bouée et puis donner une chance aux gens de s'en sortir.
On est en quelle année quand,
là,
quand
on
vous
est
commencez
2016,
à réfléchir 2016.
2016.
Et alors, votre drone, il va vraiment survoler les vagues, la mer et si quelqu'un se noie ou a besoin de secours, il peut être forcément plus rapide?
Ah oui, alors il est évidemment plus rapide. Alors effectivement, la question se pose. Pour répondre rapidement à cette question et puis pour passer un petit peu plus dans les actes, oui. On a fait une belle étude scientifique faite par le SAMU 40 et le professeur Michelet, qui est le référent de la noyade en France. Et on a comparé le temps d'intervention du drone par rapport versus le maître nageur sauveteur, oui. et le jet ski. Et il s'avère qu'en fait, le drone gagne entre 4 et 7 minutes par rapport à tous les moyens confondus.
Mais quand on sait que dans une noyade, ce sont les premières minutes qui sont importantes.
Exactement. Y a une chose qui est intéressante, c'est que dans le monde, il y a 400 000 morts. C'est le dernier rapport de la noyade. 400 000 morts par an de noyade. Nous, avec le drone, on arrive à gagner entre 4 et 7 minutes. Qu'on ne me dise pas que sur ces 400 000 morts, il y a des gens qui seraient encore parmi nous si on leur avait donné ces 4 ou 5 minutes. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne.
C'est que ça fonctionne parce que vous avez testé, évidemment, oui. Du côté de Biscarrosse, puisque la ville a accepté d'être plage pilote.
Ah oui, donc ça, d'abord, je tiens aujourd'hui à les remercier parce qu'il faut beaucoup de courage pour accepter l'innovation comme ça. Surtout un drone qui va passer à côté de votre plage où il y a 10 500 personnes. Donc on se connaît bien, hein. C'est pour ça que le binôme marche très bien. Mais effectivement, on a mis ça en place. Et je vais vous avouer quelque chose, et la première semaine où c'était juste la preuve de concept, c'était pas encore le produit fini qu'on a maintenant. Dès la première semaine, on a fait un lâcher décisif et on a sauvé quelqu'un. Enfin, j'aime à penser qu'on l'a sauvé.
Alors, vous dites un lâcher décisif parce que ce qu'on n'a pas dit, évidemment, c'est que ce drone, il tient une bouée.
Voilà,
et c'est la bouée qui va être lâchée au-dessus de la personne. Comment on fait pour que ce soit extrêmement précis ? On sait que le drone peut l'être, mais vous avez dû imaginer un produit un peu particulier.
Oui, tout à fait. Alors d'abord, le produit en lui-même, d'abord le drone, parce qu'on s'est rendu compte, on n'est pas du tout constructeur de drone, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de drone dans le grand public, qui soit capable de supporter des vents importants, la pluie, des choses comme ça. Donc on a été obligé de fabriquer notre propre drone, qui est une véritable
machine.
Qui puisse
résister aux conditions climatiques un peu compliquées.
Exactement. Donc nous, il résiste jusqu'à des rafales de force 8. Donc là, on est vraiment dans de la tempête. Je vous mets au défi de me trouver un drone qui est capable de faire ça dans cette catégorie-là. Donc on a d'abord développé le drone, et puis ensuite, on a voulu s'affranchir du pilotage par télécommande pour avoir un drone qui soit le plus facilement possible pilotable. Donc là, on a juste utilisé le doigt avec un écran tactile. Vous pointez et vous envoyez le drone là où vous voulez qu'il aille. Donc on a développé toute une solution qui permet d'envoyer le drone quasiment automatiquement, directement.
Alors on voit les images pendant
que
vous parlez sur Europe1.fr hein, qui sont juste là avec la plage de Biscarrosse notamment. Comment il fait pour être aussi précis, donc ce drone ? Vous avez mis des choses à l'intérieur de particulières ?
Alors non, on a fait quelque chose de plus simple. En fait, on a développé ce qu'on appelle un SIG, un système d'information géographique dynamique. C'est une sorte de cartographie où tous les points sont géoréférencés avec des repères visibles. Et notre MNS, notre maître nageur sauveteur, va nous dire bah, écoute, j'ai quelqu'un qui est en train de se noyer à 200 mètres en face du poste nord. Et nous, sur cette carto, on a juste appuyé sur les repères métriques qu'on a sur la cartographie, sur l'écran tactile, on appuie sur le point et le drone y va tout seul.
Il se met au-dessus
tout
et
à fait.
Là, il se passe quelque chose avec la bouée.
Alors, exactement. Ce qu'on veut, on peut le faire tout en automatique, mais on tient absolument à garder le maître nageur sauveteur. Il faut comprendre que c'est un outil et que l'outil n'est que le prolongement de la main. D'accord ? Il faut que la décision soit de l'ordre du professionnel. Et effectivement, c'est le professionnel qui va lâcher le dépôt de la bouée juste à côté de la victime.
Jean ?
Oui, moi, il y a deux choses qui m'intéressent. C'est évidemment votre impact. Est-ce que vous savez dire combien de vies vous avez sauvées depuis 2016 ?
Alors, on peut le dire.
Okay.
Donc, on est très fiers de dire qu'on a sauvé depuis 2016 8 vies. Bravo. On a 8 lâchers décisifs et on fait environ 100 interventions par saison.
Et la deuxième chose, c'est que j'ai cru comprendre qu'il y avait une logique d'économie circulaire et de deuxième vie des drones. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ?
Oui, tout à fait. Effectivement, une idée d'économie circulaire, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire acheter ces drones par des grands groupes qui en ont besoin. Hein. Et cette première vie, une fois que le contrat se termine au bout de 2 ans, on récupère le drone, on le remet en état, d'accord ? Et à ce moment-là, ça nous permet de le louer pour des prix beaucoup plus modiques aux mairies, parce qu'il ne faut pas oublier que sont les mairies qui sont les destinataires de ce type de drone et qu'il y a un problème d'argent pour tout le monde. Et donc, ça leur permet d'avoir ce vecteur de secours pour une somme vraiment faible.
On reste ensemble et on continue à parler innovation dans un instant sur Europe 1.
Il est 13h28. Europe 1, Raphaël Duchemin.
Avec vous bien sûr, 3921 et Twitter, hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge, on vous attend.
Le salon Vivatech à Paris, c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi. On y découvre quoi ? La vie de demain, les mobilités, les robots, la santé de demain, les réalités virtuelles. Ils sont là autour de vous, Raphaël Duchemin. Et si vous avez des questions à leur poser, c'est maintenant 3921, le standard d'Europe 1 et Twitter avec le hashtag Europe 1, Raphaël.
Ah, mon micro n'était pas ouvert, vous avez vu. Elisabeth est là, comme tous les jours.
Présente.
Notre coach, Jean Moreau, est là également. Et puis nos invités qui ont vraiment beaucoup de choses à nous apprendre, hein, que ce soit dans le taxi volant, que ce soit dans la médecine, que ce soit également avec ce drone sauveteur. On était justement en train d'en parler, de ce drone sauveteur qui est en test en ce moment, même pas en test, même plus en test, qui fonctionne au-dessus de la plage de Biscarrosse. On voulait préciser une petite chose. On me dit de l'autre côté de la vitre, tu n'as pas parlé de la taille de la bouée. Ce n'est pas quelque chose d'énorme, c'est vraiment quelque chose qui permet simplement à la personne qui est en train de se noyer de s'accrocher.
Alors complètement, elle est intéressante cette bouée parce qu'elle est typiquement française, totalement française.
Cocorico. Tout est français d'ailleurs. Hein.
Exactement, entièrement français, même les cartes électroniques, c'est nous qui les faisons. La bouée, on l'a développée avec Zodiac. Aerosafety System. En fait, c'est une bouée un peu particulière en forme de bouée à cheval. Donc pliée, elle est grosse comme un hot dog, si vous voulez. Elle pèse 400 grammes et quand elle tombe dans l'eau, elle se gonfle. Et ça donne une sorte de pince dans laquelle la victime peut se glisser. Et en fait, même si elle n'est pas très bien, ça va continuer à la contenir. Et ça marche vraiment bien.
Et alors, en ce moment, vous êtes en test aussi avec la Marine nationale ?
Oui, tout à fait. C'est la Marine nationale, c'est la troisième série de tests qu'on fait lundi à Toulon. Avec une nouvelle solution qu'on développe, c'est-à-dire c'est un drone filaire, c'est-à-dire que le problème du drone c'est souvent l'autonomie, et donc là on travaille avec une compagnie pour développer un câble qui va venir apporter l'électricité au drone, qui va rester à 30 mètres d'altitude et qui est capable sans pilote de suivre le bateau. Donc ça vous permet d'avoir une vigie qui vous donne une vision de tout ce qu'il y a autour, de façon très économique, hein, et également très efficace.
Anissa, des questions sur Twitter ?
Oui, il y a Marc qui vous pose une question à tous les trois. Il y a quelques années, l'innovation rimait surtout avec Silicon Valley. Grâce à vos inventions, la France change la donne. Alors pourquoi ne pas créer une nouvelle vallée ici, en France ?
Alors je vais prendre la parole juste pour répondre. Dire une chose, c'est nous, on a l'habitude de se présenter comme étant des Silicon Landais. Ça fait 3 ans que ça existe, en fait.
On a aussi des Silicon Varois et des Silicon Strasbourgeois, alors, hein, si on fait le tour du plateau.
Pour l'instant, la vallée, c'est toute la France, quoi.
D'autres régions vont arriver dans les minutes qui viennent. Elisabeth, il y a d'autres révélations à Vivatech, aussi dans la mobilité, on en parlait tout à l'heure, mais là, vous avez trouvé dans l'automobile, par exemple.
Vous savez qu'il y a une seule grosse entreprise d'automobile grand public qui va être présente cette année, parce que les Vivatech, ce sont des start-up, on le sait, c'est Citroën, qui va avoir son stand lors de cette édition parce qu'ils vont présenter un projet qui s'appelle le 1919 Concept. C'est une cabine suspendue, entièrement vitrée, équipée de roues surdimensionnées. Et de l'intérieur, les passagers pourront voir la route qui défile sous leurs pieds. Donc ça va être une innovation de chez Citroën à Vivatech cette année.
Et puis vous avez trouvé des robots également.
Oui, alors vous avez un robot qui s'appelle Ambo. C'est un robot du CNRS qui est inspiré par les fourmis. Il est issu des chercheurs du CNRS et de l'Université d'Aix-Marseille, à destination là aussi des drones et des véhicules autonomes. C'est un robot qui va être très mobile et son système va pouvoir servir à créer des robots très efficaces, notamment dans le domaine de l'exploration des planètes ou dans le domaine de la recherche de victimes dans des lieux sinistrés. C'est un robot qui ressemble à une araignée, qui est doté de capteurs qui permettent de détecter la lumière polarisée, les rayons ultraviolets qui sont invisibles pour nous, hein, pour l'œil humain. Et donc, il va pouvoir exploiter cette vision pour pouvoir mesurer, par exemple, la distance en comptant les pas minutueusement. On va en avoir besoin.
Sinon, c'est une nouvelle tendance qu'on appelle le biomimétisme, quand l'innovation s'inspire de la nature et qu'on reconstruit une araignée.
Là, ce serait une araignée.
C'est quelque chose que vous pourriez mettre dans votre technologie, Romuald ?
Ça pourrait vous servir, c'est votre outil. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'application pour ça, mais effectivement, après, on peut upgrader un peu l'appareil, un peu comme on a envie, effectivement.
La nature inspire souvent ce genre d'innovation, professeur. C'est quelque chose. Vous partez du corps humain.
En fait, je vous dirais, l'intelligence artificielle dont on entend beaucoup parler en ce moment et qui sert à énormément d'innovation, ça base sa base, c'est la reproduction de nos réseaux de neurones en version informatique. Donc oui, la nature inspire énormément. Dans notre cas, la partie modélisation 3D, c'est un autre problème, puisque en fait, tous les patients sont différents. Et c'est le principe d'ailleurs fondamental, c'est qu'on est différent et c'est ça qui crée la difficulté au niveau de l'acte. Mais par rapport à la question, aujourd'hui, l'innovation par l'intelligence artificielle est une illustration parfaite du fait que copier ou essayer de copier la nature peut avoir des bénéfices importants.
On a dit un mot tout à l'heure de ce casque de réalité qui va permettre aussi une réelle avancée pour les interventions chirurgicales. Vous nous en dites un tout petit peu plus ?
Alors, j'aime bien utiliser cette image. En fait, tous les chirurgiens rêvent d'être un Superman, en fait. Ouais. On aimerait voir nos patients en transparence avec la vision en rayon X. Et la limite, c'est qu'on ne peut pas être des Superman, ou alors il faudrait changer le génome de pas mal de chirurgiens. Ça serait un peu compliqué. L'autre idée, c'est d'être des Iron Man. C'est un autre type de héros. Il a l'avantage d'être pouvoir être dupliqué, parce qu'en fait, c'est exactement ça, le casque. C'est le principe fondamental d'appliquer un système par-dessus l'humain qui va lui donner des capacités supplémentaires. C'est ce qu'on entendait tout à l'heure avec l'outil. Ce n'est qu'une prolongation de nos capacités. On est limité par nos capacités physiques, voire cognitives. L'informatique, les nouvelles technologies peuvent nous aider en nous donnant d'autres possibilités.
En tout cas, vous êtes nos super-héros à nous aujourd'hui sur Europe 1. Merci d'être venu nous parler innovation et vous allez voir, ça va continuer.
Il est 13h37.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Restez avec nous parce que dans un instant, on va continuer à vous surprendre. L'entreprise qui va bien, merci, est un studio de réalité virtuelle. Backlight est devenu incontournable sur la scène internationale. A tout de suite.
Europe 1.
Et la France bouge tous les jours entre 13h et 14h. L'événement aujourd'hui à Paris, c'est bien sûr le salon VivaTech à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi. Et l'entreprise qui va bien aujourd'hui, elle est aussi au salon VivaTech, Raphaël.
Oui, cette entreprise, c'est Backlight. Bonjour Jonathan Tamen.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs de Backlight, qui est un studio de réalité virtuelle. Vous existez depuis 2008. Alors au départ, je crois que l'idée qui est la vôtre, parce que vous êtes un artiste, c'est de monter votre propre studio d'animation 3D. Pour créer pour vous et pas pour quelqu'un d'autre, pas pour un patron, disons-le.
Oui, c'est un petit peu ça en fait. C'est au sein d'une entreprise de
prendre
jeux vidéo,
votre indépendance.
C'est ça, où j'avais rencontré mon associé Frédéric Lecomte, où on adorait faire de la belle image et puis le studio prenait pas tout à fait la direction qu'on souhaitait. Et donc on s'est réunis pour monter une entreprise autour de la belle image. Et donc on a monté Backlight en début 2008. Avec vraiment pour optique de créer des belles choses. On était vraiment férus de l'image pointue et qualitative.
Vous démarrez petite équipe, 5, c'est ça ?
On démarre 5 dans 9 mètres carrés dans un garage où on a posé des planches, où on a amené les ordi de la maison. Mais assez vite, on a réussi à vendre nos créations puisqu'on travaillait très bien. On était une équipe d'artistes avant tout.
Et assez vite, vous allez aussi vous diversifier, question d'opportunité ?
Question d'opportunité, question de réseau aussi, puisqu'on avait, on avait nos expériences professionnelles précédentes et on a eu assez vite la possibilité, dès 2010, de travailler sur la réalité augmentée, de monter une antenne en fait, dédiée à la réalité augmentée.
Qui, oui,
à
parce l'époque, que c'est était... Total Immersion qui est
exactement,
le leader qui vient vous chercher.
Qui était à l'époque le leader et qui était venu nous chercher. C'était une des grosses boîtes françaises, leader mondial en RA, et qui cherchait des partenaires pour la création de contenu en,
RA,
en réalité augmentée.
Augmentée.
Exactement. Donc on travaillait, nous, d'un côté, sur la publicité, la belle image en animation 3D, et à côté, on a monté cette antenne RA.
Et vous créez quoi ? Les animaux, par exemple, pour le Futuroscope ?
Donc on avait travaillé avec eux pour le Futuroscope, pour les animaux du futur, qui est une attraction qui malheureusement n'existe plus, mais on a fait ça il y a longtemps maintenant, et où on avait créé les animaux des animaux du futur, effectivement, et on a travaillé aussi avec eux sur d'autres parcs d'attractions, aux États-Unis notamment.
Alors, gros tournant, 2014, l'arrivée du casque...
Rift.
De ouais. Réalité augmentée.
Donc là, c'était
qu'est-ce que ça change ?
Donc là, c'est le premier casque tout public, on va dire, de réalité virtuelle, puisque la réalité virtuelle, ça fait longtemps que ça existe. Mais le premier casque, on va dire, utilisable par le commun des mortels, c'est l'Oculus Rift. Et donc, ils sortent un premier kit de développement début 2014, avec lequel, nous, quand on l'a mis sur les yeux, on est devenu un petit peu fou. On est vraiment devenu comme des gosses parce que ça nous a emmené dans un autre univers. C'est le principe de la réalité virtuelle, ça nous emmène vraiment dans un autre univers. Et on a adoré ça. Et du coup, on a commencé à vraiment y réfléchir.
Ouais, et ça devient votre cœur de métier.
Et en fait, voilà, courant 2014, il y a le nouveau casque qui sort. Et là, on se dit, on est obligé de faire quelque chose. Donc ça, c'était l'Oculus Rift DK2, celui dont on a le plus entendu parler à l'époque. Et donc, on fait un état des lieux de ce qui existe sur cette plateforme-là à l'époque. Et on se rend compte qu'il n'y a que des trucs techniques. Et donc, on crée le premier court-métrage d'animation en réalité virtuelle à l'époque.
Ça bluffe tout le monde. Hein, parce que votre premier client, c'est assez étonnant, c'est lui-même.
Exactement, donc c'est l'Union des industries des métiers métallurgiques.
Pour les nouveaux métiers, justement.
Exactement, il cherchait un moyen avec une façon de communiquer plutôt nouvelle, on va dire, de faire venir des jeunes dans le secteur qui a plutôt... un côté un peu métallurgie et au fourneau, le métal, tout ça, ça fait un peu peur, mais en fait c'est beaucoup de haute technologie aussi. Et donc à travers cette expérience en réalité virtuelle, ils ont voulu faire venir des jeunes.
Que dit notre coach, Jean ?
Vous avez financé votre aventure, c'est...
Alors on est vraiment culture du bootstrap chez Backlight, on a tout fait par nous, pour nous, en se bagarrant beaucoup, et pour l'instant on est toujours un studio indépendant.
Ok, voilà. Et donc là ça fait 11 ans, et c'est quoi la vision à 3 ans, les prochaines étapes?
Alors la vision, pour l'instant on se développe énormément, donc là le gros secteur d'activité sur lequel on est rentré, on fait toujours de la communication en réalité virtuelle, on a une 60aine de projets qui ont été déjà créés sur les 4 dernières années comme ça. On continue à faire ça parce que c'est ce qui fait aujourd'hui rentrer des sous. Mmh. Et la suite pour nous, c'est tout le secteur de ce qu'on appelle le divertissement en réalité virtuelle. Mmh. Donc pour les sortes de salles d'arcade, on est notamment très présent dans la salle Illucity qui vient d'ouvrir à Paris, près de la Villette, qui est la plus grande salle de réalité virtuelle d'Europe à l'heure actuelle.
Il y a un projet qui est présenté à VivaTech. On a les images sur Europe1.fr. Si vous nous suivez, on va les voir dans quelques instants. Il s'appelle Eclipse. On est dans une sorte de space game de réalité virtuelle dans un vaisseau spatial.
C'est ça. Alors en fait, c'est la croisée des
chemins. Moi, ça m'a donné le tournis. Hein.
Ouais, c'est la croisée des chemins entre Sunshine, Alien et une escape game. Quoi. On est quelque part entre tout ça. Donc c'est un projet qu'on a réalisé il y a bientôt 2 ans maintenant, mais qui a encore énormément de succès parce que voilà, c'est une escape game qui est jouable à 4 en full réalité virtuelle. Et où on a la particularité d'avoir une représentation complète de l'avatar des gens. C'est-à-dire qu'on leur met des petits capteurs sur les pieds, un petit capteur sur le sac à dos ordinateur qui se balade sur leur dos. Et ils ont la possibilité d'évoluer librement dans un espace défini. Mais on triche beaucoup sur la mise en scène et les gens ont vraiment l'impression d'avoir voyagé beaucoup. Et on n'utilise pas du tout d'astuces comme peuvent le faire beaucoup d'expériences en réalité virtuelle où les joueurs peuvent se téléporter. Là, tout est à l'échelle 1. Et on utilise des ascenseurs, des systèmes de vibration, des véhicules. Et les gens ont vraiment l'impression de voyager à l'intérieur de ce vaisseau spatial. Et évidemment, il va leur arriver un peu des bricoles et ils vont devoir s'en sortir. Voilà. Donc c'est une expérience de 40 minutes. Quand c'est sorti fin 2017, les gens ne croyaient pas qu'on pouvait faire 40 minutes en réalité virtuelle, avec ce genre de niveau de qualité en plus. Et voilà, on a amené vraiment notre facture graphique, la French Touch, comme on dit. Mm-hmm. Et on a une expérience aujourd'hui qui a fait un peu le tour du monde sur pas mal de festivals.
Backlight, c'était 5 personnes au départ. Vous êtes combien aujourd'hui?
Là, on est environ 40.
Environ voilà. 40, et la suite du développement
la
encore.
Suite, on attend de des voir ce qui se passe, mais on continue à embaucher en ce moment. On a sur la base des intermittents du spectacle et des choses comme ça, des équipes qui peuvent monter à 50, 60 personnes en fonction de la charge. Mais là, l'équipe fixe est autour de 40 personnes.
C'est Backlight, c'est l'entreprise qui va bien. Merci Jonathan d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h48.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on continue notre voyage dans l'innovation. Plus de risque de perdre vos clés, elles deviennent numériques. La serrure connectée, c'est la solution. Et c'est Havre, à tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi, le salon VivaTech à Paris, ses portes de Versailles. Et la solution du jour, elle est aussi présente à VivaTech, Raphaël.
Eh oui, plus de risque de perte de clés ou de vol de clés. Une serrure connectée existe, elle est présentée justement à VivaTech. Ça s'appelle Havre, Elisabeth.
Oui, cette start-up basée à Compiègne a lancé la serrure connectée à ouverture lumineuse. Elle porte un nom anglais, hein. Ça s'appelle la Bright Lock. La Bright Lock, cette serrure, est commercialisée par l'entreprise Havre. Cette serrure connectée fonctionne via le flash du téléphone portable. Donc plus de risque de perte ou de vol, les clés deviennent numériques. Vous pouvez contrôler les accès, verrouiller, déverrouiller les portes, partager les accès. Bonjour Simon Laurent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez donc cofondé Havre. Vous avez donc inventé la serrure qui s'adapte à n'importe quelle porte. Elle est connectée. Elle utilise une technologie qui s'appelle la technologie du LiFi. Racontez-nous, elle est destinée à quoi cette serrure?
Alors cette serrure, elle est destinée, comme vous l'avez très clairement dit, à pouvoir simplifier la gestion des clés, les partager sans dénaturer l'utilisation première, hein, de pouvoir rentrer chez soi ou autre. Mais il faut voir un peu tout ce que ça peut ouvrir dans le champ des possibles de enfin ne plus être tenu et limité par la barrière que représente la serrure.
Quand vous l'avez conçue, alors quand vous dites le champ des possibles, vous avez pensé à des particuliers, à des petites entreprises? Vous avez pensé à quoi quand vous avez dit on va faire une serrure connectée?
On a pensé à permettre la libre circulation aussi bien de personnes de biens, mais également de services. Donc c'est vraiment un champ, donc c'est-à-dire comment votre famille va pouvoir plus facilement arriver chez vous pendant votre absence, mais également comment on va pouvoir vous déposer des choses telles que des colis chez vous lorsque vous n'êtes pas là, et des services, ben, comment vous organisez une surprise partie, vous envoyez le lien sur Messenger, Facebook à tous vos amis et hop, ils arrivent chez vous pour vous faire la surprise.
Alors, moi j'ai une question, justement, il faut obligatoirement donner un code à quelqu'un pour que ça puisse fonctionner, si ça marche par le téléphone portable.
Oui, il faut pouvoir partager le code depuis votre téléphone portable à travers d'une application aussi bien iOS que Android.
Sécurisée, je suppose.
Évidemment, oui, c'est le principe de base de ce qu'on a fait, c'est vraiment tout axé autour de la sécurité. On fait de l'accès sécurisé. Et donc vous partagez à travers aussi bien un lien, par mail, SMS ou à travers l'application.
Au moment où le livreur va me déposer mon colis tant attendu, je peux vérifier sur mon téléphone le moment où il est entré, il a déposé, le moment où il est ressorti, où il va passer la journée à la maison. Non mais on se posait la question.
Alors vous allez pouvoir vérifier à quel moment il est rentré et à quel moment il est ressorti. Par contre, s'il est resté un quart d'heure chez vous, vous allez voir qu'il s'est passé un quart d'heure entre l'ouverture et la fermeture.
Donc on aura cette information.
Oui, tout à fait.
Vous avez déjà commercialisé cette serrure, elle fonctionne déjà ?
Oui, la serrure elle est industrialisée et commercialisée. On a commencé par les professionnels et aujourd'hui on en a vendu un peu plus de 5000.
Que dit notre coach ?
Ah bah, déjà je salue la prouesse technologique d'arriver à faire ouvrir une porte avec une lumière, plus tout ce que ça ouvre en termes de service. Comment vous perçoivent les acteurs traditionnels de la porte blindée, de la serrure ? Est-ce qu'ils vous perçoivent comme un risque, une opportunité ?
Une opportunité, on est un relais de croissance d'une industrie qui date de plus de 4000 ans. Mmh. Et donc aujourd'hui, on va permettre à ces acteurs-là de se digitaliser et de pouvoir enfin travailler en partenariat avec des sociétés du numérique.
Elle coûte combien cette serrure et on la trouve où ?
Alors cette serrure, pour l'instant, vous la trouvez sur notre site internet, très prochainement dans des grandes surfaces, et elle coûtera 400 euros.
Elle coûtera ?
400 euros.
Et on l'installe comment ?
Tout simplement, en fait, vous changez un barillet de porte. Donc, tout le monde a l'impression que c'est très compliqué. Il suffit juste d'enlever une vis. Vous retirez le barillet existant, vous glissez le nœud, vous remettez la vis.
Donc, on peut le faire soi-même.
Si vous n'avez pas besoin d'être bricoleur, juste savoir utiliser un tournevis.
Ça, vous faites bien de me le dire.
Et sur n'importe quelle porte, de n'importe quelle époque, de n'importe quel style de...
Alors, toutes les portes, sauf les portes américaines, puisqu'ils ont un standard un peu différent, mais dites-vous que sur l'intégralité du marché européen, asiatique, vous n'allez pas avoir de soucis.
Et donc, là, techniquement, pour que les gens comprennent, c'est une sorte de morse. Le flash envoie des petits signaux qui sont captés par un capteur de lumière. C'est ça.
Vous imaginez le flash de votre téléphone qui va clignoter comme un code morse ou un stroboscope et qui va envoyer un code à usage unique à la serrure. Okay. Et donc vous allez vraiment pouvoir ensuite partager ça comme bon vous semble et quand vous le souhaitez.
La suite, c'est quoi ? Parce que là, on est sur la serrure, mais je suppose que vous avez déjà commencé à réfléchir à d'autres produits du
même type. La suite, c'est la mobilité au sens large. Quand je vous dis la libre circulation, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on a appliqué ça à l'industrie de la serrure, mais imaginez aussi la voiture. Demain, le concept de voiture individuelle va complètement être bouleversé. Et également, tout ce qui va être les biens, comment on va pouvoir partager des biens de façon sécurisée, faire de la consignation. Donc, c'est vraiment utiliser cette technologie pour démocratiser la gestion des accès a un sens extrêmement large.
Ça s'appelle Havre et elle commercialise la serrure qui s'appelle ?
La serrure qui s'appelle Bright Lock.
Bright Lock, c'est le nom de cette serrure magique. Merci d'avoir été avec nous.
Merci,
c'était
Raphaël.
La solution aujourd'hui. Merci à Jean qui était notre
Merci
coach. Elisabeth, nous,
à
on
demain.
Se retrouve demain. Nous parlerons des innovations en matière de coutellerie à l'occasion du salon Coutelia et vous allez voir qu'il y en a. Et puis n'oubliez pas, 17h, Station F, Mathieu Béliard, avec encore des innovations à venir.